Gloire à Dieu. Je suis très, très heureux d'être parmi vous, très honoré. Je veux me réjouir de voir cette Église, heureuse de servir et d'aimer le Seigneur. C'est pour moi un honneur d'être avec vous. Hier, nous étions avec un bon groupe de jeunesse et d'ados, et nous avons passé un bon moment sous le regard de Dieu. Elle est bonne, la présence de Dieu. C'est de la présence de Dieu dont nous avons besoin. C'est un moment tellement important, le moment où nous nous retrouvons sous le regard de Dieu. Ce sont les moments les plus importants de nos semaines. Et je pense que ce matin, c'est tellement bon d'être là pour adorer le Seigneur. Revenir à Golgotha, ce lieu qui a marqué à tout jamais notre vie. Quelle a été belle la prédication de l'Évangile qui a touché nos vies, non ? Qu'il a été beau ce jour. Où nous avons rencontré le Seigneur. Et ce matin, je veux me réjouir avec vous et je veux ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Je veux remercier le pasteur Gérard Gault de son invitation. Mais dès à présent, j'aimerais faire avec vous deux lectures dans le psaume 66 et le verset 10. David nous dit quelque chose de très intéressant. « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Un second texte, si vous voulez bien, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, et le verset 10. Ésaïe dit ceci, Dieu parle au travers de son prophète, « Je t'ai mis au creuset, non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Le thème de ma méditation ce matin sera le creuset de l'épreuve. La Bible nous enseigne clairement que Dieu éprouve son peuple. Et si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, nous devons nous préparer à être mis à l'épreuve. J'ose dire Amen. Amen. Dans sa première épître, Pierre dit ceci, « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il parle de l'épreuve de la foi. Quand nous lisons la vie de l'apôtre Pierre, nous découvrons que cet homme a été éprouvé dans sa foi à plusieurs reprises. Il en est ainsi pour chacune de nos vies. Mais qu'est-ce que l'épreuve ? Qu'est-ce que l'épreuve de la foi ? Qu'est-ce que le creuset de l'épreuve ? Qu'est-ce que l'épreuve ? L'épreuve, c'est un test de connaissance. C'est une mise en situation de notre vie spirituelle. C'est un examen de passage. On parle de l'épreuve du baccalauréat qui permettra à des jeunes étudiants d'accéder à des études supérieures. C'est un examen de passage. Je pense que nous associons trop souvent ce mot épreuve à la souffrance, à la maladie et au deuil. Bien sûr, la Bible nous parle de l'épreuve de Job, qui fut une véritable épreuve pour lui. Il est vrai que quand nous passons par ces moments difficiles de la vie, par la souffrance et par le deuil, sont de véritables épreuves pour nous. Mais la Bible associe plus souvent ce mot « épreuve » à la mise en situation de notre vie spirituelle, à la mise en situation de nos mobiles intérieurs, de notre caractère, de nos ambitions, de notre foi, de notre consécration et de notre piété. Le but de l'épreuve est de nous rendre meilleurs, meilleurs. Certains cheminent avec Dieu depuis bien des années, Mais le chemin n'est pas terminé. La vie spirituelle est une véritable aventure. Et il y a des temps où Dieu va tester notre vie spirituelle. Et il est bon que nous nous arrêtions sur cela. Le but de Dieu est de nous rendre, les uns et les autres, meilleurs. Et le meilleur exemple que nous découvrons, c'est l'exemple d'Abraham. La Bible dit que Dieu le mit à l'épreuve. Il va lui demander son fils, son unique, celui qu'il aime. Et quand nous lisons ce récit de Genèse 22, Abraham passera cette épreuve avec succès. Et Dieu lui dira, « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. » Je te bénirai. On va se rendre compte que l'un des grands principes de l'épreuve, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Certainement que ce fut un moment troublant pour Abraham, son fils unique, ce fils qu'il a tant attendu. Et Dieu le lui demande. Il demande le sacrifice de son fils. Et l'un des principes de base de ces tests de Dieu, c'est l'obéissance. Et quand nous lisons les premiers versets de ce chapitre 22, bien Abraham prit des serviteurs, c'est là son âne, et s'en alla. Il obéit à Dieu. Donc l'épreuve nous permettra d'évaluer notre vie spirituelle, notre connaissance de la volonté de Dieu, et nous permettra de mieux nous connaître. Mieux nous connaître. David, dans le psaume 66, nous parle du fondeur qui place l'argent dans un récipient métallique qu'il chauffe à un feu vif. Et quand l'argent commence à fondre et à bouillir, les impuretés remontent à la surface en forme d'écume ou de scorie que le fondeur enlève. Et il nous explique que Dieu fait ainsi lui aussi. Le creuset qu'il utilise, c'est l'épreuve, afin d'amener à la surface tout ce qui est encore impur en nous. Et avec l'écumoire de son esprit, il enlève tout scorie et toute impureté. Et il continuera cet affinage toutes les fois qu'il le trouvera nécessaire. C'est pour cela que nous avons lu aussi dans Ésaïe 48 cette magnifique parole « Je t'ai mis au creuset ». Ainsi, Dieu va créer l'adversité, il va créer la mise en situation, il va nous faire passer un examen de contrôle pour voir si les vérités spirituelles sont bien sues. La vie spirituelle est une grande école avec un grand maître, non ? Bien des choses ont été apprises, mais tant de choses sont encore méconnues. Et nous sommes les uns et les autres dans une grande école. Je parle souvent de la vie spirituelle en termes d'aventure, qui aura son aboutissement dans le ciel. Mais quelle aventure ! Mais c'est aussi une grande école où à chaque pas, nous allons apprendre de Dieu, mais nous allons aussi apprendre à nous connaître et à nous évaluer. Et nous sommes à l'école d'un grand maître qui nous connaît mieux que quiconque. Et il y a des choses acquises et d'autres non. Il y a des choses qui semblent acquises et qui ne le sont pas, et d'autres qui n'ont jamais été apprises. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu n'a rien à apprendre sur nous. Ce matin, il n'a rien à apprendre. Dieu m'a dit ce matin, tiens, j'ai appris quelque chose sur la sœur ou sur le frère. Dieu n'a rien à apprendre. Il sait tout de nous. Il sait tout. Mais il est bon que nous nous arrêtions les uns les autres et que nous apprenions sur nous-mêmes. Et Dieu va nous donner des temps où nous allons apprendre à connaître les vérités spirituelles. Dieu sait ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, ce que nous n'avons pas encore appris, mais que nous devons apprendre. Et c'est ainsi que notre vie spirituelle va se développer. Et l'un des grands principes de la vie spirituelle, c'est d'être enseignable. Moi, je trouve ce principe incontournable dans la vie spirituelle. Si je ne suis plus enseignable, je suis quelque part perdu. Je ne connaîtrai plus de croissance spirituelle. Je vais perdre ma joie de Dieu. Je vais perdre toute la dimension de ma foi. Ce qui est important aujourd'hui, quel que soit notre âge, c'est d'être enseignable. Est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui m'enseigner? Est-ce que je suis prêt à apprendre ce que jusqu'à présent je n'ai pas voulu apprendre? La vie spirituelle, c'est d'être enseignable. En tout cas, ne dites jamais à Dieu, jamais, jamais, jamais je ne ferai cela, jamais je ne pardonnerai, jamais. En tout cas, ce que je découvre dans les Écritures, tout ce qui ne sera pas su sera à apprendre. Non, vous pensez pas? Nous, on a deux petites filles à la maison. On est famille d'accueil, une petite fille qui veut rien apprendre, rien apprendre. Elle s'enferme dans sa chambre et puis elle joue. Elle ne veut rien apprendre, rien apprendre. Et pourtant, pour grandir dans la vie, il faut apprendre, il faut être enseignable. C'est pour cela que nous pouvons dire avec vérité que nous avons un grand Dieu. N'oublions pas qu'on plaçait les métaux précieux, l'or et l'argent au creuset. Ce matin, une des grandes vérités, c'est parce que nos vies lui sont précieuses, qu'il a préparé pour nous le creuset. Le creuset. Hein, et ce matin, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, acceptons le creuset de l'épreuve, acceptons les tests par lesquels Dieu veut nous faire passer. Et ce matin, bien humblement, j'aimerais vous parler de quatre tests ou quatre épreuves qui permettront au Seigneur de purifier notre vie. Notre vie. Il est important que notre vie soit purifiée. J'ai un texte qui est venu à mon esprit tout à l'heure quand je relisais mes notes. C'est ce texte du prophète Ésaïe, ce prophète qui est dans le temple et qui voit le Seigneur sur un trône très élevé. Il va voir ses séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». C'est quand même un prophète, un homme de Dieu. Il est vrai que la nation est dans un contexte difficile. Le roi est lépreux, ou fut lépreux, puisque ce fut le jour de la mort de ce roi Ozias qu'il vit le Seigneur sur un trône très élevé. Certainement qu'il y avait un contexte difficile, mais ce qui me surprend, c'est que ce prophète avait un langage impur. Ma langue est impure, mes lèvres sont impures. Il va demander à Dieu de le purifier. Et certainement que tout n'est pas pur en nous et que notre foi n'est pas si pure. Et certainement que Dieu a préparé le creuset pour chacun d'entre nous, afin que par son esprit, il nous purifie. Ce matin, il est important de laisser Dieu transformer nos vies. Il est important de laisser Dieu purifier nos vies. Il est important de laisser Dieu bénir nos vies. Et il va, sur ce chemin de la vie, prévoir des tests ou des épreuves. Donc, j'en ai noté quatre pour vous ce matin. Le premier test que Dieu vous a certainement déjà fait passer, mais que Dieu vous fera encore passer, c'est le test de la crédibilité. La Bible nous parle de Lot et du jour où il essaya de sauver ses gendres de la destruction imminente de Sodome. Et le texte nous dit quelque chose de terrible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et au verset 11, « Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter, plaisanter. » Lot avait perdu toute crédibilité. Ses gendres avaient certainement remarqué la manière désinvolte avec laquelle il avait traité son oncle Abraham quand leurs bergers se disputèrent. Il a entendu parler de ses accords plus ou moins tendancieux avec les gens de Sodome. En tout cas, le texte est surprenant et le texte nous dit que ses gendres Aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce matin que rien n'est plus important que notre confiance dans le Seigneur, certainement, mais aussi notre crédibilité devant les hommes. Devant les hommes. Nous sommes face à un monde qui nous regarde. Notre propre famille, nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, tant d'hommes et de femmes nous regardent vivre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit même que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. J'aimerais, ce matin, tout simplement, vous dire que la crédibilité s'oppose à la superficialité et qu'il est important pour nous de vivre une véritable crédibilité spirituelle. C'est Paul qui dira que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Jésus dira que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Être des chrétiens crédibles, c'est simplement donner du crédit à l'Évangile, donner du crédit à notre Seigneur. Et je crois que notre témoignage personnel parle plus que nos paroles. Et il est important pour nous de bien nous positionner dans notre vie spirituelle et de vivre les vérités de la parole de Dieu. En tout cas, j'aimerais vous rappeler que Jésus dira à ses premiers disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être d'authentiques témoins de Jésus-Christ. Dieu a besoin d'authentiques chrétiens. Mais je crois que le monde aussi a besoin d'authentiques chrétiens. Des hommes et des femmes qui vont montrer par leur témoignage la grandeur de Dieu. Et pour être d'authentiques chrétiens, il faut que nous vivions cette vie de l'Esprit, cette vie de Dieu. L'apôtre Paul nous dit même que nous sommes le parfum de Christ. C'est une belle image. Nous sommes le parfum de Christ. Qu'est-ce qu'un parfum ? Un homme a dit ceci, c'est ce qui reste d'une personne qui a quitté la pièce. Quand nous quittons les lieux où nous sommes, que laissons-nous comme parfum ? Bien que ce soit la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. L'apôtre Paul va parler d'une odeur de mort, et il va parler d'une odeur de vie. Pour les chrétiens, le témoignage que nous devons nous rendre les uns les autres, c'est ce parfum de mort, de consécration. Mais dans ce monde, nous avons besoin de donner ce bon parfum de la vie de Dieu. Nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes cette bonne odeur de Christ. Donc, le premier test que nous pouvons passer dans notre vie spirituelle, que nous passerons, c'est ce test de la crédibilité. Amen. Et il faut que nous rendions l'Évangile crédible, notre Dieu crédible. Et nous voulons être d'authentiques serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui rendent témoignage de l'amour du Seigneur. Il y a un autre test que Dieu peut nous faire passer, c'est le test du désert. Il y en a des déserts dans la vie, des moments difficiles, de ces moments douloureux. David, dans le psaume 63, va dire ceci, lorsqu'il est dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » On a souvent idéalisé les hommes de Dieu. On a souvent fait d'eux des gens invincibles, des fois, où notre regard, le regard que nous avons porté sur les Écritures, sur ce que ces hommes ont été, c'est des grands hommes de Dieu. Mais quand nous lisons attentivement leur vie, on va se rendre compte que ces hommes aussi ont connu les déserts de la vie spirituelle. Et David, cet homme selon le cœur de Dieu, est passé lui aussi par des déserts spirituels. Et David fait référence à ces moments de la vie où nous nous sentons sans joie, et spirituellement déshydraté. Hein ? C'est des moments douloureux. Peut-être ce matin, quelqu'un passe par ce moment-là. Je crois que nous y sommes déjà passés dans ce test, où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'a pas entendu notre prière. Et la Bible nous montre que de grands hommes de Dieu ont traversé ces déserts. On a Élie, le désert du découragement. C'est un désert compliqué, hein, quand dans notre vie spirituelle on est découragé. On a prié, on n'a pas été exaucé. On vit des moments douloureux, des moments difficiles. Oui, on passe par la maladie, on passe par le deuil. On passe par l'incompréhension. Élie a connu le désert du découragement. Nous pouvons connaître aussi ce désert du découragement. Le peuple d'Israël est passé par le désert de la solitude, nous dit le psaume 107. Difficile aussi ce désert quand on est seul, face à soi-même, face à ses difficultés, face à ses problèmes. On est seul à élever ses enfants, on est seul. Et c'est compliqué, hein, d'être seul. Peut-être c'est une personne âgée qui est seule. C'est des tests difficiles. Le test de la solitude, le désert de la solitude. On a Agar aussi, le désert des ressources épuisées. Elle a été rejetée par Abraham. Elle se retrouve dans ce désert. Elle a une outre qui est vide. Elle n'a plus rien. Elle est sans ressources. Ses ressources donc sont épuisées. Elle est dans ce désert. Quand on est épuisé moralement, physiquement, spirituellement, c'est des moments difficiles aussi. Il y a des déserts dans la vie qui sont compliqués à vivre. Et puis on a Jésus aussi qui a connu le désert de la tentation. C'est un terrible désert, hein, quand on est prêt à tout lâcher. On ne veut plus avancer avec Dieu, on est découragé. Il y a une situation de séduction. On est tenté d'abandonner la volonté de Dieu. C'est un désert difficile et ce fut certainement aussi pour Jésus. Des moments difficiles, mais ce désert va révéler notre capacité à s'adapter à l'adversité. Il y a des moments d'adversité dans notre vie. Oui, il y a des moments de joie, il y a des moments d'intense bonheur, d'intense foi, il y a des moments où tout va bien. Mais la vie est faite aussi d'adversité, de ces moments difficiles où il nous faut continuer à marcher. Bien que la vie ne nous fasse pas de cadeaux et on se retrouve face à soi-même et face aux tempêtes de l'existence. Mais cette épreuve permettra toujours à Dieu, cette épreuve du désert permettra toujours à Dieu de nous faire connaître sa fidélité et ses ressources infinies et adaptées. Dieu a conduit son peuple dans le désert pendant 40 années et dans le livre du Deutéronome, il est dit ceci, et c'est Dieu qui parle, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. » Le texte nous dit, « Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Dieu a été fidèle, et Dieu a pourvu aux besoins de ses enfants. Dieu a été le Dieu du miracle. Si vous passez par ce test du désert, si votre vie est compliquée aujourd'hui, vous êtes découragé, vivez un temps de solitude, vos ressources sont épuisées, vous vivez un temps de tentation. Sachez que les ressources de Dieu pour vous sont infinies, mais surtout adaptées à votre besoin. Mais il faut apprendre à s'adapter dans l'adversité. Mais l'épreuve du désert permettra aussi au Seigneur de parler à votre cœur. Sachant que Dieu a conduit ce peuple, l'a attiré et l'a conduit au désert. Et Dieu dira, je parlerai à son cœur. Vous passez par un temps de désert. Permettez à Dieu de parler à votre cœur. Et plaise à Dieu ce matin que ces quelques paroles que je partage avec vous soient des paroles de Dieu pour vous. Oui, il y a des tests. Oui, nous passerons les uns et les autres par le désert. Mais ce désert nous fera grandir. Ce désert nous montrera toute la grâce de Dieu. Ce désert nous montrera les ressources infinies de notre Dieu. Si je veux parler d'un quatrième test, je parlerai du test du contentement. Êtes-vous toujours content? Pas toujours, hein? Mais c'est normal. C'est pas inné chez l'homme. Mais néanmoins, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'est un test, hein ? Hein ? Il parle de l'humiliation. Il sait ce que c'est qu'avoir faim. Il sait vivre dans l'abondance. Il a connu la disette. Pas évident tout cela. Et l'apôtre Paul, si grand fut-il, un homme remarquable, le texte nous dit qu'il a appris le contentement. Parce que ce n'est pas inné chez nous. Et il est passé par l'apprentissage divin du contentement. Il a connu, lui aussi, tous ses sentiments négatifs dans ces moments difficiles de sa vie. Nous connaissons tout cela. Quand tout va bien, ah, ça va bien. Hein ? On est plein de foi, on est plein d'entrain, on est plein de bonheur pour Dieu. Ah là là. Et quand nous passons par des temps difficiles, c'est autre chose. Il y a là une autre personne. Et pourtant, l'apôtre Paul a appris. Donc, il a été enseigné par Dieu. Il a été enseignable. Et il est important pour nous de laisser Dieu nous enseigner le contentement, d'être enseignable, de pouvoir ouvrir son cœur. Qu'est-ce que le contentement ? C'est apprendre à aimer ce que l'on a, en attendant ce que l'on aime. Hein ? Apprendre à aimer ce que l'on a, en attendant ce que l'on aime. Donc le contentement de l'apôtre Paul ne dépendait pas des circonstances dans lesquelles il se trouvait. Il dit « j'ai appris ». Il a appris à vivre au-delà des circonstances. Et bien souvent, ce sont les circonstances qui créent en nous le contentement ou le mécontentement. Quand tout va bien, on est content. Et quand ça va moins bien, ben on est mécontent. Mais l'apôtre Paul a appris à vivre au-delà des circonstances. Il a appris à accepter sa condition en faisant confiance à Dieu, sachant qu'il possédait pour lui le meilleur dans l'instant présent. Quelles que soient les circonstances que l'apôtre Paul traversait, il a appris le contentement en faisant confiance au Seigneur, en sachant que dans le moment présent, il avait le meilleur pour lui. Je pense que nous savons bien que Dieu a le meilleur pour nous, à chaque instant. C'est l'apôtre Paul qui dira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, s'il pouvait dire à ses Philippiens, Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'est qu'il pourvoyait aux siens. Et il en était le témoin. Il savait que Dieu pourvoyait à ses besoins. Ce matin, ce qui est important pour nous, c'est de vivre cette vérité. Pour chaque moment de notre vie, Dieu pourvoira. De toute manière, jusqu'à ce jour, Dieu a pourvu, non ? Jusqu'à ce jour, Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoira. Mais c'est une disposition de foi, de confiance que nous allons placer en Dieu qui fera toute la différence. Il dira même, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a appris à surmonter chaque situation en comptant sur Dieu. Chaque situation en comptant sur Dieu. Alors là, c'est un test. C'est un véritable test. Oui, le test du désert aussi, c'est un véritable test. Oui, le test de la crédibilité de notre vie spirituelle est un véritable test. Dieu veut que nous soyons crédibles. Oui, Dieu nous fait passer par certains déserts afin de nous enseigner certains principes pour notre vie spirituelle, entre autres l'endurance et la persévérance dans la foi. Mais le contentement va nous amener à vivre en faisant confiance au Seigneur. Il y a dans la Bible un homme qui a souvent démontré le mécontentement, c'est Jonas. C'est Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, il part à Tarsis. Il part à Tarsis, et puis il y a ce ricin qui est une bénédiction pour lui, et puis cerise sèche, il est content, il est mécontent, il ne sait pas comment se positionner. Mais ce qui est important pour nous, c'est de vivre un véritable contentement en Dieu, de pouvoir dire j'ai appris à être content. D'abord, un cœur content est un festin perpétuel. Amen. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui dira que c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Qu'est-ce que cela veut nous dire ? Qu'il ne suffit pas d'être chrétien pour être heureux. Non. Non. Soyons pleinement heureux. Nous connaissions la vraie joie de Dieu, il faut y ajouter le contentement. Apprendre à aimer ce que l'on a aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours facile, en comptant sur ce que l'on aime. Et l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu, a appris à être content. Si Dieu vous fait passer ce test du contentement, apprenez cette grande leçon. Apprenez à regarder ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Et réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné, en sachant qu'il a encore bien des choses pour chacun de vous, pour chacun de nous. Et Dieu est riche pour nous bénir les uns et les autres. Enfin, je terminerai en donnant un dernier test. C'est le test de nos motivations. Lorsque le Seigneur veut nous faire toucher du doigt, quels sont les vrais motifs derrière nos actions ? Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous motive ? Je crois que tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur doivent vivre cette école et passeront, en tout cas, par ce test. Qu'est-ce qui me motive quand je sers le Seigneur ? Qu'est-ce qui me motive quand je viens dans ce lieu ? Par exemple, prier est essentiel pour le chrétien. Mais pourtant, Jésus affirme, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout pour être vu des hommes, ne leur ressemblez pas. Ça semble très spirituel. Alors bien sûr, ces hommes-là priaient dans les coins des rues pour être vus, etc. Mais la prière est très spirituelle. Très spirituelle. Et nous avons besoin de développer les uns et les autres une vie de prière. Cette vie de communion avec Dieu. Mais à la fois, regardez ce qui motivait ces pharisiens. Être vus des hommes. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, ton Père te voit. Ferme la porte et ton Père te voit dans le secret. Des fois, il y a des actes qui peuvent paraître très spirituels. Et les motivations sont tout autres. Parfois, nous ne sommes pas conscients de ce qui se cache au fond de nos cœurs. Derrière de bonnes paroles se cachent parfois de mauvaises motivations. À l'exemple de Pierre, qui dira à Jésus, si tous t'abandonnent, mais moi je t'abandonnerai jamais. Hein? C'est quelle parole remarquable quand même. On peut dire quel homme de foi. Encore Pierre, cet homme qui a marché sur les eaux, cet homme de défi, certainement que les autres ont dû le regarder. Si tous t'abandonnent, moi Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Il y avait une magnifique parole, parole de la foi. Et derrière tout cela, il y avait une mauvaise motivation. Ce matin, Dieu connaît et analyse les sentiments et les pensées de nos cœurs. La Bible nous dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce matin, Dieu peut aussi nous faire passer ce test de nos motivations, parce que de mauvaises motivations créent aussi des crises intérieures et des moments douloureux dans notre vie spirituelle. Alors nous sommes face à nous-mêmes, peut-être face à notre amertume, à notre rancœur, à notre aigreur. Hein? Et là, il faut se poser les bonnes questions. Là, il faut réfléchir. David dira à Dieu à un moment donné dans sa prière, et je pense qu'il serait tellement important que cette prière soit aussi notre prière, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Des fois, nous sommes sur de mauvaises voies sans le savoir. Quand nous vivons avec de mauvaises motivations, nous sommes sur de mauvaises voies. Bien sûr, David, dans ce texte-là, et dans un autre contexte, certainement que que le nôtre ce matin, ou si nous sommes dans le contexte de David, il est certainement bon de faire cette prière qu'il a faite et de dire à Dieu, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Donne-moi de vivre une restauration spirituelle, mais des fois. Oui, notre cœur peut être impur. Et nous avons besoin que nos motivations, en tout cas, honorent et servent le Seigneur. Et derrière, des fois, des actes spirituels se cachent de mauvaises motivations. Il est bon de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous bénir les uns et les autres. Oui, c'est une grande école. Nous y passerons et nous y passerons encore. Et même nous, pasteurs, même moi, j'ai besoin de m'arrêter devant Dieu et de prendre du temps pour analyser mes motivations, ce qui me motive à faire telle et telle chose. Je veux, en tout cas, que mon ministère et ma vie honorent le Seigneur. La seule chose qui est importante pour nous, c'est que notre vie honore Dieu. Ce matin, en concluant, j'aimerais dire simplement cette phrase. Quel que soit le creuset par lequel vous passez, permettez à Dieu de vous rendre meilleur. De vous rendre meilleur. Hein? Oui, ce qui n'est pas su doit être appris. Amen. Et nous avons échoué dans certains domaines de notre vie. Les uns et les autres, nous sommes face à nos échecs. Et même si nous avons bien des années de conversion, nous sommes face à certains de nos échecs, des choses qui appartiennent à notre vie. Nous n'arrivons pas à passer outre. Mais Dieu va permettre des tests, va permettre le creuser. Il va faire chauffer une petite situation pour nous, afin de faire lever ce qui est impur dans nos vies. Non, pensez pas? Oui. Afin de nous rendre purs. Afin de nous rendre utilisables. Et utilisables pour sa gloire. Moi, je bénis Dieu pour toutes ces années de conversion, toutes ces années de ministère. Mais j'ai appris qu'au travers de différents tests par lesquels je suis passé, Dieu a voulu me rendre meilleur. Meilleur. Hein? Et les uns et les autres, pour que la gloire de Dieu apparaisse dans cette belle église qui est la vôtre, il faut que Dieu vous rende meilleur. Meilleur. Encore meilleur. Nous avons besoin de tendre vers l'excellence. Vous pensez pas? Tendre vers l'excellence. Nous sommes souvent face à nos faiblesses, à nos manquements, ce qui doit nous jeter aux pieds du Seigneur dans la repentance. Seigneur, aide-moi. Et il y a des prières dangereuses à faire au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Il va nous préparer un petit creuset pour nous permettre de grandir. Mais il y a des tests. Alors ce sont des moments difficiles. Et des fois, son laboratoire, c'est même l'Église. C'est même l'Église. Il a prévu un petit laboratoire pour nous. Et c'est dans son Église, dans le contact des uns avec les autres, que Dieu va permettre cette transformation afin de nous rendre meilleurs. Meilleurs. Plaise à Dieu que vous grandissiez. Il n'y a rien à donner dans notre vie spirituelle. Tout ce que Dieu a prévu pour nous, il l'accomplira. Je disais hier avec les jeunes que toutes les œuvres de Dieu s'accompliront. Et toutes les œuvres qu'il a prévues pour nous s'accompliront avec fidélité. Ce matin, vous passez par un test difficile, un moment un petit peu douloureux. Bien, sachez vivre ce moment dans la foi, dans la confiance au Seigneur. C'est un moment où Dieu éprouve votre vie spirituelle, vous passez par le creuset. C'est un moment où Dieu prend du temps avec vous pour vous rendre meilleur. Plaise à Dieu que vous grandissiez dans la foi, deveniez meilleur de jour en jour, afin que le Seigneur soit glorifié. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Merci pour ce qu'elle nous montre. Oui, tu as pour nous le creuset de l'épreuve. Seigneur, éprouve-nous. Donne-nous de devenir meilleurs sur ces différents points que nous avons vus, sur notre crédibilité. Fais de nous des hommes de Dieu. Je t'en prie. Aide-nous à devenir meilleurs dans ce domaine-là. Donne-nous de devenir meilleurs dans notre contentement aussi. Donne-nous de grandir quand nous passons dans le désert aussi. Donne-nous, Seigneur, de vivre notre vie spirituelle avec d'authentiques motivations. Seigneur, viens purifier nos cœurs et nos vies. Viens nous rendre meilleurs, je t'en prie. dans le nom de Jésus. Amen.